Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit. L'after qui continue avec vous tous pendant cette période sans foot et en direct, bien sûr, uniquement sur RMC. À la radio, l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas avec ce dimanche soir, Daniel Riolo qui est là. Daniel, bonsoir.
Salut les amis et philosophe, hein, Thierry Henry, j'aime beaucoup cette phrase.
Oui, Thierry Henry, oui. T'aimes beaucoup ?
Oui.
Oui, c'est.
Non, ça a l'air de rien, mais c'est. J'aime bien.
Ouais, ça fait un peu prof d'histoire géo de quatrième quand même.
Je suis pas sûr, non.
On pourra la réécouter, on verra. Pierre Ducrot est là également, salut Pierre.
Bonsoir messieurs. Moi je comprenais plus mon prof de quatrième que la phrase de Thierry Henry.
C'est vrai. Et Lionel Charbonnier est là également, salut Lionel.
Salut les copains, salut à tous. Ouais, moi j'aime bien moi la phrase de Thierry Henry aussi.
Non mais elle est marrant.
C'est sympa.
Et je pense qu'à la fin, il sait plus trop ce qu'il veut dire en fait. Mais bon.
Bah, les quatre derniers mots, bon, on aurait pu éviter, mais le reste, j'ai trouvé ça sympa. L'histoire de sa montre, qu'il arrête, mais que le temps s'arrête pas. Ouais, ça tient debout.
Exactement.
Alors, on n'avait pas besoin de tirer Henri pour savoir quand il arrête sa montre, ça s'arrête le temps de sa montre.
Ah, mais t'en as qui pensent pas, tu sais.
Ah, ouais. Bon, d'accord. C'est une phrase, en fait, c'est une phrase confinement, en fait, cette phrase de Thierry Henry. Alors, l'événement ce soir dans l'After, en tout cas, les gars, c'est le retour des chapeaux. Eh oui, l'After a déjà classé les numéros 9 par chapeau, les meilleurs dans le 1.
Belle merde.
Puis le 2, puis le 3, puis le 4. Dimanche dernier, on s'est occupé des ailiers. Et ce soir, on va s'occuper des meneurs de jeu. Alors, on fait 10 et 8. Hein. On englobe tout ça. Ce sera à partir de 23h avec les
Comme on fait chaque année, hein, les 8-10, on les a toujours fait ensemble.
Oui,
et les 6 à part.
Il y a des gens qui nous écoutent, Daniel, ils n'étaient pas forcément là en 2010. Tu vois.
Ouais, tu crois vraiment.
Pour faire des rappels. Pour les plus jeunes qui nous rejoignent ou ceux qui ont découvert l'after il y a quelques semaines seulement ou quelques mois. On vous attend en tout cas au 32-16 pour débattre avec nous tout à l'heure. Ce sera très sympa. Les chapeaux, c'est toujours. C'est marrant en fait. L'actu du jour dans quelques instants, notamment de parler de Depay et de Bouba Camara. À 22h30, Paulo Breitner sera là car il y a pas mal d'actu en Allemagne. On s'entraîne en Allemagne. Il y a même des mecs qui arrivent à se blesser alors qu'il n'y a pas de contact à l'entraînement. Ça, c'est fort. Paulo nous racontera ça tout à l'heure, bien sûr. Et puis à la demande générale, le retour de l'instant cuisine de l'after avec Lionel et.
Enfin, c'est plutôt le bilan là.
Et Daniel. Ben non, mais on reçoit plein de messages. Je dis, ouais, c'est pas mal quand même la chronique cuisine de l'after. Alors au début, ça m'a un peu. Ça m'a un peu désarçonné. Je me suis dit, attends, ils veulent quoi les gens là, qu'on devienne une émission de cuisine ou
Mais pourquoi? Mais ça fait partie de l'ADN de l'after de parler de tout.
Et en plus, c'est très football. Tu peux pas manger n'importe quoi. C'est diététique, hein, attention. On a besoin de ça quand on est footballeur.
Alors, avant qu'on démarre, j'aimerais quand même qu'on réécoute ce que dit Thierry Henry plus précisément, parce qu'on n'était pas d'accord. Écoutez.
Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps.
Ouais, le mais, il faut du temps. Bon, voilà. Mais le reste, j'aime bien.
Ouais, il peut s'arrêter à la moitié, quoi.
Ouais. Surtout, il dit, on n'a pas de temps. Bah, en ce moment, si, on a du temps. Pardon, mais ouais, il y a des situations où tu as le temps.
Le temps, très souvent, nous prend trop de temps, justement.
Ah ouais? Bah, ça dépend du temps que tu as.
Le temps qui court. Comme disait la magnifique chanson d'Alain Chamfort, c'est le temps qui court.
Bon, allez, 32-16, hashtag RMC Live, direct studio, on vous attend.
C'est le manque d'amour qui nous fait vieillir.
Oh là. Okay, ouais. si tu veux la chanter, ce serait mieux.
Mais ça, c'était dans le temps, Daniel.
C'est le temps qui court.
Non, arrête, ça va pas. Non, c'est pas bon. Alors, j'aimerais vous parler dans l'actu du jour, puisqu'on va parler de l'actu du jour tout de suite, de Memphis Depay. Pourquoi ? Parce que les supporters lyonnais, qui aujourd'hui avaient du temps, se sont tous donné rendez-vous sur Twitter et ont lancé le hashtag Memphis Stay in Lyon. En gros, il y a des doutes, quoi. On se dit, qu'est-ce qui va se passer avec lui ? Alors, il y a la blessure, il n'est pas à Lyon, il s'est un peu baladé partout pour sa rééducation. Il était notamment longtemps à Rome pour sa rééducation. On a suivi que ça allait très vite, certains même s'inquiétaient au club. Bref, en tout cas, aujourd'hui, les supporters lyonnais ont tous, pas tous, mais enfin...
Comme quoi, les temps changent.
Tout à fait.
Ça n'a pas toujours été le cas pour Memphis Depay. Hein.
Tout à fait. Et là, qui c'est qui a aussi du temps ? Eh bien, Jean-Michel Aulas, qui lui aussi y allait de son petit tweet. Alors ça, c'est assez étonnant, parce qu'il est quand même, c'est quand même le patron, hein, le boss. Et il dit sur Twitter, Jean-Michel Aulas, cet après-midi, « J'espère vraiment que Memphis va rester longtemps dans la famille OL. Je fais vraiment tout pour cela. Memphis, c'est ce que je fais pour... » avec un petit signe de prière, là. « J'ai confiance en Memphis. » Voilà. C'est quand même un mode de communication assez particulier pour un président. Et
ça
de
fait
club.
Longtemps hein, qu'il l'a dit, qu'il s'est annoncé sur Depay.
Ah non, mais oui, non, mais d'accord. Enfin là, ce qui est drôle, c'est ça que je voulais, discuter avec lui, c'est que le boss du club va sur un réseau social pour dire ah oui, moi aussi, je veux que tu restes, Memphis, tu vois, un peu comme le supporter de base, quoi.
Ouais. Bon. Ça c'est lui, ça c'est il peut pas s'empêcher. Mais il l'avait déjà dit sur un réseau social, sur Twitter. Hein, il avait déjà annoncé qu'il serait derrière lui, qu'il attendait très vite que
la situation est favorable.
Le faire re-signer, et voilà.
Eh oui.
La situation est favorable parce que comme il est blessé, un Memphis Depay qui aurait fait une saison complète sans cette blessure, on sait très bien que son destin logiquement était de quitter le club. Lui-même avait fait plusieurs déclarations dans ce sens-là, où on sentait bien que Lyon lui avait servi pour se relancer, et d'ailleurs il l'avait plutôt bien fait. Enfin, en tout cas, on avait eu la certitude qu'il avait réellement des qualités.
Il faut se rappeler la fameuse déclat, Daniel, où il avait mis un petit taquet à Lyon en disant « J'aspire à aller dans un très grand club ». Sous-entendu, Lyon n'en est pas un.
Exactement, exactement. Ouais. Donc... logiquement, moi je m'attendais à un départ. Cette blessure, elle change tout. Parce que d'abord, et en plus le contexte fait que le mercato sera probablement très calme, mais que certains clubs ne peuvent pas s'intéresser à lui. Voilà.
Bah disons que tu vas prendre moins de risques avec le contexte dont tu parles, Daniel. Les clubs vont prendre beaucoup moins de risques cette année, je pense, dans les de toute façon, ils partiraient pas pour rien. Je pense. Donc un mec qui revient de blessure, tu vas moins tenter de coups. Je pense que cette année les clubs vont moins tenter de coups et c'est, je pense, pour Lyon la
l'opportunité de le garder.
Exactement, ouais, j'allais dire la bonne pioche.
C'est pour ça que je disais le contexte est favorable.
La moins mauvaise pioche, quoi.
À ce que tout le monde se fasse une déclaration d'amour. À ce que Aulas fasse le patron qui réussit à retenir la vedette. À ce que Memphis, qui finalement n'aura peut-être pas beaucoup d'ouverture, d'un coup, par une sorte de revirement bien organisé, dise à quel point il se sent bien à Lyon. Hop, voilà quoi. Tout le monde est content. Tout le monde est content.
Pierre, ton avis ?
Ouais, je suis pas sûr que tout le monde soit content à la fin, parce que je suis.
C'est-à-dire?
Je suis pas persuadé que Memphis Depay. Parce que là, pour que tout le monde soit content, ça veut dire qu'on a une prolongation de Memphis Depay à Lyon. On est d'accord?
Ouais.
Introduis cet élément-là dont effectivement, moi, quand je disais il reste, je pensais pas à cette donnée contractuelle.
Dernière année de contrat, Daniel. Donc s'il reste, ça veut dire qu'il est libre à la fin de l'année et qu'il s'en va libre de Lyon l'été prochain. Et je pense pas que ce soit ce dont Aulas parle là. Quand il parle de je veux que Memphis Depay reste longtemps à Lyon,
c'est
forcément le prolonger. Soit pour le revendre. Oui, mais moi aujourd'hui.
Quand il dit je fais vraiment tout pour cela, et Memphis le sait, ça veut dire qu'en gros, il y a une proposition de prolongation qui va tomber.
Bien sûr. Mais aujourd'hui, et c'est là où je mets un bémol sur le contexte qui est favorable pour Lyon, qui est favorable pour le garder, oui. Mais qui est favorable pour le garder avec une fin de contrat qui va arriver l'été prochain. Parce que je vois pas l'intérêt, moi, d'un Memphis Depay aujourd'hui qui a été blessé. Il faudrait vraiment qu'il ait pas de chance pour se re-blesser encore la saison qui va venir. Je suis lui. Moi, je réfléchis encore un bon long moment avant de prolonger. Je reprends tranquillement l'entraînement. Je reprends tranquillement ma saison quand ce sera possible. Et puis je vois un petit peu. Je fais le bilan plutôt l'hiver prochain. Et où il sera dans un fauteuil, dans un confort. Mmh. Donc je suis pas sûr que le contexte soit si favorable que ça, parce que t'aurais pu être aussi si c'était pas passé ce qui se passe actuellement avec la pandémie. On aurait pu être dans un contexte où Memphis Depay serait peut-être parti de Lyon et aurait rapporté quelques petits millions à Lyon. Ou alors, s'il n'y avait pas effectivement, et comme vous le disiez un petit peu tout à l'heure,
Pierre, Lyon ne peut pas vendre tout le monde. Lyon a aussi intérêt à se garder une bonne équipe. J'entends bien que tous les clubs en France sont des clubs vendeurs et ont besoin de faire rentrer de l'oseille. Mais si même Lyon entre à 100% dans ce cas de figure-là et ne peut pas garder son joueur vedette en affirmant vouloir être ambitieux, pardonne-moi, ça me chagrine un petit peu. Je comprends parfaitement ce que tu dis. Mais j'aime aussi que le deuxième club en France, en termes de moyens financiers, se dise « Mon meilleur joueur, même s'il est blessé en ce moment, c'est Memphis Depay. Je réussis à lui faire une prolongation. Il reste et tout. Et je ne pense pas en ce mec-là aurait pu, s'il n'avait pas été blessé, si machin, si ceci, cela, il aurait pu me rapporter, par rapport aux 17 millions ou 20 millions que j'ai mis sur lui, 50. J'entends bien que l'opération financière eût été belle. Mais bon,
je te dis
quoi.
Pas que Lyon pense comme ça. Je te dis que Lyon, dans le contexte actuel, je suis pas sûr que ce soit finalement si favorable que ça pour prolonger Memphis Depay. Voilà, je suis pas sûr que ça aurait pas été plus facile dans un contexte normal avec cette possibilité éventuellement, si tu n'arrives pas à le prolonger, de te faire un petit peu d'argent quand même à la fin. Voilà, même si c'est pas ton vœu premier, à la fin tu as encore ça pour t'en sortir. Alors, là je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose s'il prolonge pas, il est dans un fauteuil Memphis Depay.
Je précise que demain soir dans l'after à 22h on aura Edouard G avec nous et on fera un gros dossier lyonnais. On parlera notamment de la succession de Jean-Michel Aulas. C'est vrai qu'il y a de nombreux bruits qui circulent à Lyon. Edouard viendra demain nous donner toutes ces infos et on pourra débattre avec vous, supporters lyonnais, de la gouvernance du club, du mercato plus généralement, hein, au-delà de Depay, bien sûr, demain soir, spécial OL, donc dans l'after à 22h. Alors, autre info mercato du jour, c'est le Daily Express en Angleterre qui le dit. Manchester City s'intéresse de près à Boubacar Camara, le joueur de l'OM, donc il y a un prix qui circule, on parle de 30 millions d'euros. Voilà, bon.
Boubacar Camara, 30 millions d'euros. Ouais, de toute façon, là, on parle pas du tout du même club, c'est autre chose. Et là, on sait pertinemment.
On sait que Marseille vend.
Que pour l'OM, c'est de toute façon des propositions qui ne pourront pas être refusées.
C'est un vrai. Ouais, on en parlait, je sais plus quand, mais je crois que c'est mercredi soir, peut-être. On a fait un truc sur l'OM où on était tous d'accord pour dire à la fin que de toute manière, la question n'était pas est-ce que l'OM va vouloir ou pas vendre, c'est qu'ils n'auront pas le choix. Ils vont devoir accepter les 2-3 offres qu'il y aura pour les 2-3 joueurs qui auront une valeur. Ils n'ont pas le choix.
Bon, le prix de 30 millions d'euros, vraisemblablement, c'est plus une volonté marseillaise. Hein, donc, est-ce que ce sera. Bon, je sais pas, le marché dit quoi pour un gars comme Boubacar Camara, Pierre?
C'est super particulier parce que sans cette pandémie, on aurait peut-être pu réussir à un peu définir la valeur des joueurs. Là aujourd'hui, on parle déjà d'une baisse quasi systématique de 20% sur tous les joueurs. Alors c'est très compliqué parce que
c'est pas un joueur Ligue des Champions, Boubacar Camara. Attention. Hein.
Non, mais c'est un jeune joueur.
On voit qu'il a du potentiel. C'est pas fou de penser
qu'un Boubacar Camara aujourd'hui peut être payé le même prix par un gros club qui a été payé un Diallo par exemple. C'est pas fou. Qu'un Kerrer qui est arrivé au PSG.
C'est combien Kerrer?
C'est pas du tout la même chose. D'un côté, il a statut international et c'est le PSG. C'est le PSG, on sait très bien qu'ils surpayent, qu'ils mettent de l'oseille. En plus, là, il vient parce qu'un entraîneur le demande.
City surpaye aussi un petit peu comme tous ces gros clubs un petit peu aussi quoi, tu vois.
Alors, je précise, je suis pas
30 millions c'est bien payé hein. Franchement si jamais ils le vendent 30 millions pour moi c'est bien payé parce que
alors attention sur les 30 millions parce qu'il y a un truc à décrypter d'ailleurs là les supporters marseillais vous pouvez nous appeler au 32-16 hein, pour donner votre avis. C'est qu'en fait on, dans le dossier RMC Sport, alors je sais pas si c'est l'agent ou quoi qui a fait savoir ça, mais West Ham s'intéresserait à Boubacar Camara et en fait s'il y a concurrence. Donc d'abord City mais également West Ham, s'il y a concurrence, ça peut faire monter le prix. Mais en fait, faut savoir, sachez-le messieurs et dames qui nous écoutez, quand vous entendez que West Ham est intéressé par un joueur, bon, faut toujours prendre ça avec des pincettes hein, parce que West Ham c'est souvent le club qu'on utilise en sorte de leurre pour dire ouais, mais regardez, il y a West Ham qui s'y intéresse. Les mecs de West Ham ils réagissent jamais, ils disent rien, tu vois, puis je dis, oh oui, West Ham. Donc dès que vous entendez West Ham dans une rumeur de transfert, méfiez-vous.
Mais tu quittes Marseille pour aller à West Ham?
Excuse-moi, ouais, j'ai voilà, pas bien pas compris pourquoi il fallait se méfier de West Ham, là, pardon, mais j'ai
pas
compris.
Parce que West Ham, c'est le club. En fait, personne ne réagit jamais à West Ham. T'as jamais
c'est une vraie fausse surenchère.
D'accord. Donc, en fait, c'est facile de dire, ouais, mais attendez, on a des touches avec West Ham.
Ouais, enfin, attends, Lionel, excuse-moi, mais ta phrase, là, juste avant que je repose la question à Gilbert, pardon, mais moi, je peux pas entendre ça.
C'était quoi ma phrase?
Peu importe le club, tu quittes l'OM pour la première ligue.
Pourquoi?
Mais parce que c'est bah, tu n'as aucun joueur qui dira non.
Moi je viens de dire que l'OM parce que l'OM est parce que l'OM est en grande difficulté.
Mais parce que l'OM est en grande difficulté financière. Ah ben non, mais attends, si derrière tu sais qu'il y a un projet solide, si tu sais qu'il y a quelque chose dans ces cas-là et que des dirigeants sont capables de te faire une promesse d'un club qui redevient ambitieux et tout, mais là on parle pas du tout de la même chose là. Là on parle pas du tout de la même chose si c'est ça.
Ben ouais, mais enfin moi
c'est pas ça. Si c'est pas ça aujourd'hui,
je prends en considération.
Mais Lionel, si c'est pas ça aujourd'hui, l'OM est en grande difficulté financière et la première ligue, tu sais très bien que les joueurs y vont même dans les clubs inférieurs parce qu'ils savent que en quelques matchs ils peuvent se faire repérer et que la carrière peut basculer.
Ah, West Ham, j'y vais pas. Franchement, moi je suis Camara, West Ham, j'y vais pas, je regrette hein.
Alors ah non. Alors attends. Alors c'est Pierre qui dit jamais d'avis.
Alors Pierre,
qu'est-ce que tu dis à un de tes joueurs qui peut aller en première ligue? Alors, et surtout, ça qu'est-ce dépend... que disent les joueurs aujourd'hui? La vérité, qu'est-ce que disent les joueurs aujourd'hui?
Ça dépend
quand on connaît
de
la situation de nos clubs.
Les joueurs, très clairement, mettent le pied en première ligue.
Évidemment, il va y aller absolument.
Tu réfléchis pas très, très
évidemment,
longtemps.
Évidemment, évidemment.
Ça dépend, forcément. C'est toujours un peu du cas par cas, mais ça dépend effectivement de quel type de joueur on parle. Forcément, si on parle d'un jeune joueur qui a tout l'avenir devant lui, qui a pas encore 26, 27 ans, qui a pas d'autres possibilités que signer, je sais pas, moi je dis une bêtise, mais effectivement à West Ham, il réfléchit pas une seconde. À un moment donné, dans la balance, si t'as un Manchester City avec un Tottenham et effectivement un West Ham, je suis pas sûr que West Ham fasse le poids très longtemps dans la réflexion du joueur, peu importe financièrement qui est le même salaire, un
oui,
peu
mais
moins.
Si c'est West Ham ou rien.
Ah, si c'est West Ham ou rien aujourd'hui, quand t'es joueur de quasiment, allez, j'ai envie de te dire 19 clubs en France, tu vas à West Ham.
Ah ouais.
Je pense que tu vas à West Ham.
Tu joues en première ligue, Lionel, aujourd'hui pour la première ligue.
Tu joues dans quel club?
De haut niveau.
Le but est de mettre un pied en première ligue. Alors après, si le joueur veut faire autre chose.
Tu n'es pas obligé de mettre un pied en première ligue pour aller re-signer en première ligue. Tu peux mettre un pied en première ligue dans un club.
Oui, mais le problème, Lionel.
Pour moi, c'est un très 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 bon joueur.
Lionel, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nos clubs en Ligue 1 offrent tellement peu de garanties de stabilité que tu sais très bien que tu peux laisser passer des occasions. Regarde un mec comme Thauvin, il y a 2 ans, 70 millions en première ligue en Italie ou je ne sais pas quoi. Entre-temps, l'OM a perdu de l'ambition, a perdu des moyens, s'est retrouvé en crise financière et Thauvin s'est blessé.
Et Thauvin, il a fait quoi en Angleterre?
Non, mais Thauvin a été en échec.
Moi, je te parle de ce
qui peut se passer. Non, mais bien sûr.
Il était bien content de retrouver l'OM pour pouvoir se faire relancer.
Mais le problème, c'est que l'OM, tu peux toujours le retrouver, Lionel. Tu peux toujours faire le pas en arrière. Sauf que le pas en avant, tu ne peux pas laisser passer l'occasion de le tenter. Moi, je te dis pas que c'est bien. Attention, je suis pas en train de défendre, en train de dire il faut faire ça. Je dis, je comprends les situations d'aujourd'hui parce que nos clubs n'offrent pas assez de stabilité dans les projets sportifs. Tu vois, on sait très bien que du jour au lendemain, de toute façon, tous les joueurs sont en vente.
Si on revient sur le projet sportif, la différence, Mouillot, entre un Thauvin et un Camara, c'est la différence de profil, c'est la différence de poste, c'est la différence de ce que nécessite pour se mettre en valeur un Thauvin qui va devoir avoir beaucoup de ballons, qui va devoir jouer sur le plan offensif, etc. Et un Camara qui, malgré une technique tout à fait honorable et enfin voilà, c'est un vrai joueur de foot, mais qui va être à des postes, alors soit derrière, soit au milieu maintenant, mais à des postes où en Angleterre tu peux t'éclater quasiment dans toutes les équipes aujourd'hui.
Ouais, tu peux faire un profil différent. Si jamais devant toi, t'as pas un bon milieu pour te.
On va prendre l'avis de Sofiane, les gars, au 32-16, des supporters marseillais. Ouais. Sofiane, bonsoir.
Salut, bonsoir Gilbert, bonsoir toute l'équipe.
Bon, Sofiane,
salut,
on est d'accord pour dire qu'à partir d'un certain montant, quoi qu'il arrive, c'est inéductable, Camara va partir.
Oui, bien sûr. Je pense que Camara, que Caleta-Car, que Sanson, tous ces joueurs-là, aujourd'hui, c'est des joueurs qui sont à vendre. Mais en fait, ce qui est intéressant avec votre débat, c'est que ça permet aussi de replacer l'OM dans ce qu'est le football européen, dans le Gotha du football européen aujourd'hui. Vous savez, si l'OM, il n'y avait pas cet engouement autour du club et les supporters marseillais qui revendiquaient et qui brandissaient comme un étendard leur club, l'OM aujourd'hui, c'est comme Saint-Etienne, c'est comme Bordeaux, c'est un club où on fait, auquel on fait beaucoup de bruit, mais qui aujourd'hui est devenu un petit club.
Malheureusement, tu as raison. Malheureusement, tu as raison.
Bien sûr.
C'est plus qu'un petit club, c'est un club où tu n'as aucune garantie ou certitude d'une saison à l'autre. Voilà, plutôt.
C'est ça.
Bien sûr. Le problème, Pierre, c'est qu'en fait, avec l'OM, il y a deux soucis. C'est qu'en fait, les dirigeants marseillais, Héro a cru qu'il allait, par sa personnalité, faire mieux que la Brune. Mais en réalité, l'OM, il y a deux projets. Soit c'est le projet trading, soit c'est le projet grand club. Enfin, le projet, en gros, concurrencer le Paris Saint-Germain. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train de glisser dans le projet trading de joueurs. Sauf que, à Marseille, on acceptera, enfin, la pression populaire n'acceptera pas. Je pense que c'est pas un club dont l'ADN
exactement
est fait pour avoir des jeunes joueurs. Mais on est contraint par une réalité du marché qui impose de fait le fait que l'OM devienne petit à petit un petit club qui va vendre des joueurs à l'étranger. Et ça, je ne pense pas que ce soit compatible avec l'ADN de l'OM. Nous, on est bloqué parce que l'OM, de par ses spécificités, est un club qui empêche qu'un investisseur richissime vienne. Et moi, c'est la question que je pose. C'est aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'un, je sais pas, le PSG, je t'avais déjà posé la question, Pierre, chez Momo Boissy, le Qatar détient le Paris Saint-Germain. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, qui est rivale avec le Qatar, n'achète pas, par exemple, n'exporte pas sa rivalité dans le football français?
C'est ce qui peut arriver. C'est ce qui peut arriver, Sofiane. Hein. Moi, c'est ce que je souhaite pour l'OM, c'est ce que je souhaite pour le football français, honnêtement.
Moi, Sofiane, je te souhaite plutôt un mécène ou un milliardaire qui est un amoureux de Marseille plutôt qu'un fonds d'investissement.
Oui, mais ça, c'est plus possible aujourd'hui.
Gilbert, ils viendront, le mécène, il viendra juste pour faire du trading. Il viendra pour faire du trading, il viendra pas pour rivaliser avec un État.
Aujourd'hui, c'est plus possible. Ça, t'as plus de mecs qui vont venir et qui vont foutre une mallette sur la table.
Non, jamais.
En plus, le fair play financier empêche beaucoup de ce genre d'investissement-là maintenant.
Exactement.
C'est dur.
Et Sofiane, pour répondre à ta question, je pense aussi que derrière le PSG, il y a surtout la ville de Paris et tout ce que Paris représente à l'étranger pour ces gens-là. C'est au niveau du tourisme, au niveau de tous les business qu'ils ont en cours bien avant le football d'ailleurs. En France. Elle est là, la différence.
Tout à fait, Pierre, mais il ne faut pas oublier, ça c'est ce que j'avais déjà dit la dernière fois quand je suis intervenu, c'est que malgré tout, ville de Paris, avec la marque mondiale que c'est, s'il n'y a pas le lobbying du président Sarkozy, il n'y a pas le plan Le Prou à l'époque, les Qataris, il y a peu de chances qu'ils viennent. Donc ça veut dire que malgré tout, il a fallu un concours de circonstances favorable pour que les Qataris viennent racheter l'OM. Aujourd'hui, je ne pense pas que les conditions soient réunies pour que l'OM soit racheté. Et donc, moi, je pense qu'on se dirige petit à petit dans une impasse injouable. Où d'un côté, on va devenir un club de trading, mais c'est incompatible avec l'ADN de ce club. Et d'un autre côté, une pression populaire à Marseille qui veut des stars, qui veut des grands joueurs, mais qui, en même temps, empêche de par, si tu veux, cette prélation qu'ils ont sur le club, le fait que l'OM ait demain des investisseurs, ait demain des ambitions. Parce qu'aujourd'hui, voilà, le système tapis qui a été mis en place dans les années 90, il a été mis en place dans un certain contexte où il n'y avait pas autant d'argent dans le football, où il n'y avait pas autant d'impératifs financiers. Aujourd'hui, on est prisonnier et pris au piège de cette impasse entre d'un côté la volonté les ambitions toutes naturelles que doit avoir l'OM, c'est-à-dire d'être un très grand club et de concurrencer le PSG, et la réalité du football aujourd'hui, qui est que il y a énormément de structures et de fondations à changer à Marseille, sinon c'est un club qui va végéter.
Et le gros problème, Sylvain, c'est que je pense que tu fais ni l'un ni l'autre réellement à 100%. C'est ça le problème, c'est que tu es un peu entre les deux, finalement.
Sofiane, merci en tout cas. On reparlera sans doute de l'OM également cette semaine.
Bonne analyse de Sofiane.
Des infos. Merci à toi en tout cas. Salut, bonne soirée.
Bye bye.
Dans quelques instants, j'ai d'autres infos mercato à vous donner. Et puis, on va aussi parler des périodes parce que la FIFA aujourd'hui a envisagé une troisième période de mercato. Donc, on va vous donner les détails dans quelques instants. Bougez pas, on revient tout de suite. Et Paulo Breitner nous rejoindra juste après parce qu'en Allemagne, il se passe plein de choses. D'ailleurs, en Allemagne, on s'entraîne. Est-ce que ça fait polémique là-bas ou pas? Paulo va tout nous raconter dans quelques instants.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Avec Lionel Charbonnier ce soir, avec Pierre Ducrot, avec Daniel Riolo bien sûr. Alors, encore un peu de mercato les gars. Le journal AS explique aujourd'hui que le Real s'intéresse à Tanguy Kouassi. Deux joueurs du PSG, Kouassi et Aouchiche. Deux jeunes du PSG qui n'ont pas encore signé pro. Donc le Real s'intéresse à eux, à suivre. Bien sûr, le PSG qui a toujours des stratégies parfois un peu étonnantes avec ses jeunes. Donc...
Ils les vendent très bien. Pourquoi c'est une stratégie? C'est bien. T'as vu comment ils les vendent bien?
Bah non, mais Kouassi, peut-être qu'il mériterait de signer au PSG quand même, Kwasi Doo. En plus, chaque fois qu'on l'a vu, il n'a pas été mauvais.
Il faut qu'il veuille le joueur, Gilbert.
Il est là le souci.
Souvent, on s'aperçoit que les mecs veulent pas forcément.
Ça vous choque pas qu'un mec qui soit formé quelque part, dit bah, première occasion, je me casse.
Qu'est-ce que ça me choque? Ça me choque.
Ça me choque parce qu'il a pas envie que ce qu'il fasse. Il essaye de le faire signer.
Il veut pas, le mec.
C'est choquant, mais
tu peux pas forcer les mecs aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux.
Enfin, dans l'état que les choses, tu peux rien y faire. Bah, voilà. Tu peux changer ça, mais
j'avais pas prévu qu'on parle de ça, mais enfin, quand tu te rends compte que, alors, j'ai pas les chiffres exacts pour le PSG. Enfin, quand tu regardes quels sont les jeunes qui ont signé pro au PSG sur, on va dire, les 2-3 dernières années?
Quels sont les jeunes qui auraient pu s'imposer au PSG aussi, Gilbert?
La vraie question, c'est pas celle-là, c'est quels sont les joueurs qui auraient pu s'imposer et quels sont les joueurs qui sont allés ailleurs et qui sont devenus des cracks, dont le PSG aurait pas pu se passer. Ben là, tu vas avoir du mal à trouver, mon grand.
Ben alors, donc, j'arrive au bout de la réflexion. À quoi ça sert de fermer des joueurs?
Ben, ils les vendent. T'as vu comment ils les vendent? Mais bien. Parce que l'année dernière, ils se sont sauvés par rapport au fair play grâce à ça.
Tu fais ton petit centre de formation et le but, c'est juste de vendre des mecs et de faire un peu de
tout. Gilbert, c'est tes mecs qui n'ont pas le niveau pour jouer chez toi.
Déjà, tu es obligé d'avoir ton centre de formation. Hein. C'est dans le cahier des charges. Donc, t'as pas le choix. Donc, autant être dans les meilleurs pour les vendre le mieux possible.
T'as raison, Yo. Déjà, t'es obligé. Puis tu, si t'en as un, tu passes. Enfin, tu prends peut-être t'as peut-être la chance de pas passer à côté de celui ou des deux seuls en 5, 6, 10 ans qui vont sortir en haut et qui vont avoir le niveau. Et tu peux me citer les grands clubs du statut aujourd'hui du Paris Saint-Germain qui forment aujourd'hui 4, 5, 6 joueurs pour jouer en équipe première au Real, au Barça.
Le Barça, ils ont depuis la grande génération, ils ont de plus en plus.
Tu peux chercher, il y en a pas.
L'année dernière, ils étaient encore premier centre de formation.
Je pousse la réflexion.
Non, tu sors des jeunes pros
que tu revends tout ça et donc ça rentre dans la comptabilité par rapport au classement.
Donc oui, mais ils jouent pas chez toi, ils jouent pas dans ces grands clubs là.
Mais ils jouent plus, ce que je veux dire. Ils jouent plus dans ces grands clubs là, c'est fini.
Ce que je veux dire par là, c'est que le cas du PSG n'est pas le seul. C'est partout la même chose.
Donc ça veut dire que un grand club un peu cynique, tu vois, pourrait se dire attends. On a l'obligation d'en avoir un de centre de formation. Ok, on va le faire vivoter tranquillement. Mais bon, c'est pas prioritaire, donc on mettra pas trop d'argent dedans. Et puis si on vend pas de joueurs, de toute façon, vu que ça nous coûte pas trop cher, finalement, ce sera pas bien grave. On pourra en arriver à cette extrémité-là.
Le problème qui se passe, par exemple, si tu prends le problème de Rabiot, c'est que, en fin de compte, le PSG gagnait de l'argent à le sortir du centre de formation par rapport à s'ils avaient dû l'acheter. Il a coûté beaucoup moins cher. Tu comprends? S'ils avaient dû acheter un joueur comme ça, à la base, je parle, hein, il a tourné sa tête, ils auraient dû le payer beaucoup plus cher. Donc, le club a intérêt à sortir des jeunes joueurs, à les faire signer. Mais le problème, c'est que, après, ils ont la tête à l'envers.
Gilbert?
Vas-y, un chiffre.
Excuse-moi, mon Yo, je te coupe.
Vas-y,
parce que je savais qu'à l'époque on en avait parlé d'ailleurs, et puis je savais que le chiffre est assez important. Tu sais, en septembre 2019, combien ont rapporté les jeunes issus du centre de formation au PSG? Tu vas être surpris, je pense.
Vas-y.
C'est énorme.
63 millions.
Ah, c'est pas.
Eh oui, donc ça rapporte de l'argent quand même, Gilbert.
Ouais, mais c'est pas énorme. Je pensais que c'était plus. Honnêtement.
Quand même.
63 millions, c'est-à-dire qu'il leur coûte combien? Au moins 80 millions.
Déjà, ça veut dire déjà que le centre de formation
comment
est rentable, a priori. Parce que
la formation. Ça, il leur coûte 80 millions
dans le budget.
Comment ça?
Par an? Le budget.
Quoi, le centre de formation coûte 80?
Mais non. Non, beaucoup moins que ça.
Oui, ça veut dire que c'est rentable déjà.
Allez, ça coûte entre 8 et 12 millions par an, Lionel.
Non, il est payé, mec, oh!
Mais oui, mais bien sûr, mais pas au centre de formation aussi cher que ça. Non, je t'assure. Les deux gros budgets de centre de formation en France, c'est Lyon, Monaco et Paris.
Je crois savoir que
Lyon Monaco est à 9 millions, quelque chose comme ça.
Combien ça coûte sur l'année?
Ouais.
Wow, c'est...
au PSG, au PSG, pour moi, ça coûte.
Pierre, il y a 8-12.
Allez, peut-être pas 80, mais dans les 60, ça le
sert. Non, 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 beaucoup moins que ça, Yo.
Le centre de formation, mais quand tu dépasses 10 millions, c'est le bout du monde.
Oui, 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 non, beaucoup moins que ça.
Quand tu dépasses 10 millions, je pense que Lyon doit être à 9, je me trompe peut-être.
Ouais, c'est ça.
Le max, c'est le salaire de Rabiot quand il était encore au centre de formation. Rien que lui.
Ah, mais non, mais lui, il est plus. Ah, au centre de formation?
Mais quand il était au centre de formation, qui jouait,
à partir du moment où il signe pro, et il signe pro très très tôt, Rabiot. Ouais, non, mais alors... ça rentre plus dans les frais du centre de formation. Là, c'était dans la masse salariale de l'équipe professionnelle après derrière Yo. Le budget de fonctionnement du centre de formation, c'est effectivement ceux qui sont aspirants, ceux qui sont stagiaires pro, et le budget, le coût de fonctionnement du centre de formation, et éventuellement
quel est le coût du centre de formation pour attirer des jeunes.
Ah, ça, j'en sais rien. Ça, honnêtement, j'en sais rien. Mais en gros, tu vois, en septembre 2019, tu vends Nkunku 15 millions, tu vends Diaby 15 millions, tu vends Nsoki 12 millions et demi,
Lyon,
tu vends
Timothée Weah 10 millions,
tu vends Zagré 10 millions.
Lyon, c'est 7 millions et demi le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement, c'est 7 millions et demi Lyon. Et c'est un des plus importants.
Je crois que c'est un peu plus
important. C'est largement rentable à Lyon.
Et un joueur à former sur tout son parcours, c'est dans les 200 000 par là.
Ouais, après ça dépend. Il y a des fois des petites primes qui, pour attirer des joueurs, etc. Mais c'est jamais beaucoup.
200 000, c'est ce que tu leur donnes pour qu'ils viennent dans ton centre de formation.
Non, c'est
ce que tu leur donnes. C'est ce que ça coûte, la formation globale.
Non, il y a pas de formation.
Moi, ce que je te dis, c'est que.
Oui, voilà, il y a une moyenne. Il y a une moyenne.
Ouais, parce que les bons joueurs, quand tu veux les avoir à 14, 15 ans, déjà, il y en a beaucoup qui reçoivent 200 000 balles.
Alors, tiens, Oumar, donc,
ça, c'est autre chose, ça. Ça, c'est éventuellement quand tu.
C'est pour les attirer. Déjà aussi, ça, tu dois le mettre dans ton coup.
S'il vous plaît, Oumar me signale aussi, il a raison sur l'achat RMC Live. Attention, tu as aussi l'obligation de mettre, il ne faut pas oublier, 6 joueurs formés au club dans ta liste de Ligue des Champions. Donc, de fait, tu es obligé quand même d'avoir une base de gars potentiellement présents pour ça. Quoi. Bon, voilà. Voilà sur ce débat sur Aouchiche et Kouassi. Par ailleurs, info importante sur le mercato. Donc ça, c'est la FIFA aujourd'hui qui le fait savoir. En fait, bon, c'est une émission. Le directeur de la réglementation du foot de la FIFA. Il s'appelle James Kichting. Il était invité d'une émission en Allemagne aujourd'hui et il a expliqué que la FIFA réfléchissait à la possibilité d'organiser une troisième période de mercato. Aujourd'hui, il y en a deux, évidemment, été hiver. Donc pourquoi pas une troisième là, peut-être automne. En l'occurrence là. En fonction de la reprise des championnats et de la fin des championnats, de la reprise des suivants, pour en gros aider les clubs et les joueurs et le marché quoi, à se faire de façon plus fluide. Voilà l'idée du jour de la FIFA. Je ne sais pas si vous voulez réagir, mais.
Je vois pas trop l'intérêt, moi.
Là, franchement, mais c'est incroyable depuis un mois le nombre de trucs qu'on entend, les nouvelles idées et les réformes dans tous les sens. Là, j'avoue mais que je comprends pas. Et à chaque fois, je suis bouche bée. Je sais jamais quoi en penser. Je dis, oui, qu'est-ce que ça va apporter à la troisième?
Imaginons.
Ce sont peut-être tout simplement des conneries, quoi.
Imaginons que notre championnat ou que les championnats européens se terminent en septembre et que les suivants démarrent mi-octobre.
Déjà Gilbert, la FIFA, bon, c'est pas encore officiel, mais va statuer sur une date maximale de fin de championnat de domestique début août. Voilà, oui. Il faudra pas que les championnats aillent au-delà déjà.
C'est ce qu'on dit pour l'instant. Finir.
C'est quasiment obligé. Mais si, c'est quasiment obligé. Sinon, ça veut dire que tu vas pas pouvoir reprendre le championnat suivant. Ça veut dire que tu n'auras pas le temps de finir tes compétitions européennes à aucun des championnats domestiques. Donc, c'est quasiment inévitable que les championnats domestiques doivent se terminer début août. Donc, si tu peux pas, ça veut dire que ce sera injouable.
Je voulais vous relayer ça. On a le droit de pas en penser grand chose, hein, puis on verra.
T'as pas l'impression que ça compliquerait tout encore plus, quoi. Enfin, honnêtement, je vois pas du tout l'intérêt de remettre une fenêtre transfert.
J'ai l'impression, Gilbert, que les gens parlent tout simplement en s'annonçant maintenant, en essayant de se projeter, ils essaient de se donner un peu de crédibilité, mais je trouve ça va à l'encontre
Alors sinon, en termes de mercato, je vous signale que l'agent de Lautaro explique qu'il y a quand même de grandes chances qu'il aille au Barça. Il s'appelle Sergio Zarate, et c'est un de ses agents. Voilà, vous savez que c'est la volonté de Messi.
Lautaro au Barça, on a l'impression que c'est écrit depuis pas mal de temps maintenant. Voilà, et puis le joueur veut, tout le monde veut.
L'entraîneur, il veut le prochain.
Zarate, l'occasion de me taire.
Ah, si Messi veut, tu crois que l'entraîneur, il veut aussi.
Ah non, oui.
Oui.
Et puis quelques infos italiennes également à vous donner. Déjà vous dire que le président de Brescia a sulfaté tout le monde. Alors lui il dit de toute façon nous c'est simple à Brescia on reprendra pas quoi qu'il se passe. Massimo Cellino hein, dit ça. Donc il est dernier de Serie A et il dit la chose suivante. Il dit moi on peut me donner les points de pénalité qu'on veut, j'assume, il y a pas de problème, je ne reprendrai pas. Donc rappelons que la région de Brescia est sans doute l'une des plus touchées en Italie. Alors il y a Lotito qui est le patron de la Lazio qui lui veut absolument reprendre et là le gars de Brescia lui dit Lotito il veut jouer, le braillement d'un âne n'atteint pas le ciel comme on dit chez moi, donc en gros qui ferme sa bouche
et puis ça, c'est l'équivalent de notre bave de crapaud qui n'atteint voilà, pas, pas la blanche colombe.
C'est ça.
Lotito toujours très apprécié dans le football italien.
Ouais, et puis il y a le président de la Fédé aussi.
Oui, pardon.
Le président de la Fédé qui a mis un petit coup de rap aussi à Brescia, il s'appelle Gravina. Alors il dit ouais lui qu'il aille moins faire le fanfaron à la télé, qu'il regarde, qu'il aille vérifier les comptes de la Fédé, dit le président de Brescia, qu'il vienne faire un tour à Brescia. Moi de toute façon je veux pas être avantagé, j'ai pas peur de redescendre et de toute façon la Serie A on la retrouvera un jour. Voilà, donc il est chaud hein, le président de Brescia.
Ce qu'on note, de ce qu'on note depuis le début, c'est que selon la gravité de la pandémie dans les pays, les réactions par rapport à une reprise éventuelle du foot sont différentes. L'Italie, qui pour l'instant est le pays qui a le plus souffert, on a de plus en plus de... Enfin, c'est là où on a le plus de réticence et où on a envie vraiment de baisser la tête et de dire c'est trop dur, ce qui s'est passé. Au contraire, si tu regardes par exemple en Allemagne, là les réactions sont un peu différentes et déjà ça rejoue. Tu vois, c'est... L'impact émotionnel que la pandémie a eu dans les pays.
Il y a beaucoup moins de morts en Allemagne qu'en Italie. Hein.
C'est pour ça, c'est ce que je suis en train de te dire. L'impact émotionnel que la pandémie a eu dans les pays a un gros impact sur les réactions vis-à-vis des autres éléments de la vie quotidienne, c'est le vrai. Foot ou le reste, quoi.
Alors à la Lazio quand même on s'énerve pourquoi? Parce qu'on estime qu'il commence à y avoir déjà des problèmes d'équité. C'est le porte-parole de la Lazio qui dit aujourd'hui, mais attendez, Cristiano là, on a vu les images, il s'entraîne. Alors que les nôtres, ils s'entraînent pas, c'est pas normal. Parce que quand on va reprendre, ceux qui se sont entraînés à l'étranger, ils auront une longueur d'avance sur nous. Voilà ce que dit le porte-parole de la Lazio aujourd'hui.
Il s'entraîne comment, Ronaldo, tout seul chez lui?
Oui, Ronaldo, il a été vu en fait au centre d'entraînement du National Madère, tu sais, qui était son tout premier club à Madère.
Il s'adapte, il est tout seul, il respecte les
procédures. C'est un peu mesquin de la part du gars de la Lazio.
Ouais, c'est...
Voilà pour les infos du jour. Les gars, je voulais vous signaler également que Kenny Dalglish est sorti de l'hôpital, la légende de Liverpool. Il a 69 ans, il était hospitalisé positif au coronavirus et finalement, voilà, il est guéri, tout va bien. Il est sorti de l'hôpital, donc Kenny Dalglish. Dans quelques instants, on est de retour avec Paulo Breitner. On va parler de la situation allemande. Donc, parce qu'en Allemagne, ça bouge, on s'entraîne dans des conditions un peu spéciales, ça fait débat. Et pendant ce temps-là, certains clubs vont très très mal. Polo va nous raconter ça dans quelques
Il faudra parler de l'éventualité de la fermeture de l'espace de Schengen, s'il te plaît, par rapport à tous les joueurs qui se sont barrés. Comment ils font pour revenir?
Alors attends, parce que ça, on verra demain, parce que demain, Emmanuel Macron s'exprime. Demain, il risque d'annoncer des choses qui vont avoir des conséquences sur le foot. Si, par exemple, il annonce, comme le dit BFM TV, que les rassemblements de plus de 100 personnes seront interdits jusqu'à la fin de l'été, déjà, ça veut dire que si jamais il y a reprise, ça va être huis clos.
Non mais ça, voilà. À la limite, j'ai envie de te dire qu'on s'en doute tellement.
C'est sûr. Après la fermeture de l'espace Schengen, je pense qu'on peut envisager quand même pour les gens qui travaillent qu'il y ait des dérogations.
Ouais.
Que tu reviennes sur ton lieu de travail, par exemple, ou que pour les raisons professionnelles, pour redémarrer l'économie, tu as un déplacement à faire en dehors de l'espace Schengen. Bon, ça va pas être l'autarcie généralisée.
Non, mais je voulais poser la question parce que quand j'ai entendu ça et que ça risquait d'être annoncé, je me suis dit, mais attends, tous les mecs qui sont barrés à droite à gauche, comment ils vont faire, quoi, tu vois?
Dans quelques instants, l'Allemagne, messieurs, c'est tout de suite à l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois.
Lionel Charbonnier, la Pierre Ducrot et la Danielle Riolo également. Je rappelle que l'after pendant toute cette durée sans match est là tous les soirs en direct. Hein, donc samedi, dimanche compris, on est là bien sûr avec toute l'équipe, avec Lionel qui est toujours. C'est ton confinement, ça va Lionel toujours? Ça se passe bien?
Très bien, très bien.
Il y a la campagne, tout va bien.
J'ai beaucoup de chance. Et vous avez même pas fait mon petit challenge.
Ah mais là, les challenges.
Alors moi, je tiens à m'excuser, mais alors j'ai refusé tous les challenges. Moi, pour pas dire
il y a trop de challenges.
Pardon, mais j'ai
pas au courant. Celui-là, Daniel, t'aurais pu le faire, toi.
Franchement, je suis pas au courant. C'est quoi?
Je t'avais fait un petit truc, un petit challenge chantilly challenge.
Moi,
va voir.
Ah, moi,
je t'ai envoyé, je t'ai mis un petit truc.
Ouais, j'ai pas fait attention, je suis désolé, vraiment, j'ai pas fait gaffe.
Messieurs, Polo Breitner nous rejoint. Polo, bonsoir.
Bonsoir, mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Polo, merci à Pierre, et merci à Pierre de m'avoir accepté comme ami.
Ah oui, je t'ai accepté aujourd'hui, c'est vrai.
Voilà, c'est ça.
C'est vrai.
Et toi, ton confinement, mon petit Polo, ça se passe bien? Le moral est bon?
Honnêtement, ça commence à être un peu long. J'ai le temps de faire plein de choses.
T'as lu tous tes livres?
Écoute, ça commence, il va falloir en racheter. Mais je suis très heureux parce que j'ai réussi à refaire. Je me fixe comme objectif de refaire l'histoire, une série en fait, de refaire l'histoire de la Bundesliga année après année en fait sur un réseau social. Et donc j'ai viens de finir l'année 1972 et donc j'ai.
T'as commencé en quelle année?
Création en 1971. Et tous les jours, j'en fais une. Et donc, j'ai très bon retour de mes nouveaux amis.
Toujours sur ta page Facebook, alors. Donc, pour ceux qui veulent aller voir ça.
Voilà, donc, non, c'est sympa. Et donc, voilà. Sinon, si je fais beaucoup d'échecs, je me rase pas, les cheveux poussent, ce qui est.
Je me rase pas.
Et voilà.
Les cheveux poussent, pour ceux qui poussaient plus, moi.
Ils poussent en désordre. Mais ça devient un peu long honnêtement, mais on fait plein de choses que j'avais pas le temps de faire, c'est-à-dire on se retourne dans le cinéma, on essaye de voir les bêtises, d'écouter les bêtises que vous dites parfois, ou des choses comme ça.
Très bien. Alors mon petit Polo, on est ravis de t'avoir parce que les Allemands ont repris.
L'entraînement,
bien sûr. Dans des conditions qu'on a expliquées la semaine dernière, hein, bien particulières, pas de contact, pas de douche au centre d'entraînement. Chacun a sa petite organisation. Est-ce que ça fait débat en Allemagne ou est-ce que finalement, c'est considéré comme logique et normal?
Déjà, je voudrais remercier Daniel parce que ce qu'il a dit tout à l'heure, il y a deux minutes, là, sur que chaque pays a sa propre pandémie, j'ai envie de dire, est très importante et on est en train de penser que l'Europe vit la même chose en ce moment, ce qui est évidemment pas le même cas aujourd'hui en Allemagne par rapport au nombre de décès ou au nombre de personnes qui sortent des hôpitaux ou qui sont guéries, etc. Permets-moi, Gilbert, de ne pas trop parler de ce sujet-là parce que je suis pas un spécialiste et je me tiens comme quelqu'un qui, en gros, je m'interdis de parler de cette pandémie, excepté les chiffres qui peuvent sortir, parce que je ne suis pas virologue, je ne suis pas un spécialiste. On me dit de rester 3 mois confiné, je suis 3 mois. Demain, on me dit vous avez le droit de sortir, je sors. Mais je veux pas non plus faire celui qui sait sur un sujet franchement, j'y connais rien. Pourquoi je remercie Daniel, c'est que moi, je me suis fait allumer dans un autre pays parce qu'ils ne comprennent rien de ce qui se passe en Allemagne, en fait, où c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de morts, où c'est vrai que les choix stratégiques.
Et où donc tu t'es fait allumer?
En Suisse francophone.
Ah bon?
Oui, parce qu'il disait que c'était n'importe quoi les choix faits par la fédération, par la Ligue allemande, en disant qu'il fallait arrêter au 15 avril, ensuite repousser au 30 avril, etc. Il faut savoir que les méthodes mises en place par le gouvernement de Mme Merkel et les choix stratégiques dans cette crise sanitaire sont pas du tout les mêmes pris que dans d'autres pays d'Europe. Je ne juge pas sur les résultats, moi, parce que là-dessus, encore une fois, je veux pas prendre. Mais c'est sûr, c'est qu'il y a beaucoup moins de morts aujourd'hui en Allemagne que dans d'autres pays européens. Ce qui fait, en plus, comme ils ont décidé de tester énormément de personnes, on a des foyers et les foyers sont isolés. Donc, on n'a pas du tout les mêmes choses dans différentes zones européennes. Donc, c'est peut-être l'une des explications pourquoi la Ligue de football allemande souhaite reprendre le plus tôt possible la Bundesliga. C'est qu'on n'a peut-être tout simplement pas autant de morts que dans d'autres pays européens. Donc, ça me semble important.
Alors, je reviens à ma question. Ouais. Est-ce qu'en Allemagne, le fait que les clubs de foot reprennent, fait débat?
Ça fait débat, oui et non. Ça fait débat, pas, j'ai envie de dire, dans la patrie footballistique, parce qu'ils ont bien compris qu'il y a de l'oseille à se faire, ou tout du moins qu'il faut absolument...
Sauver certains clubs, on va en parler.
Par contre, à l'extérieur, la presse généraliste est beaucoup plus critique et ne comprend pas forcément pourquoi le monde du football professionnel est très différent de ce qui se peut passer dans différentes activités industrielles du pays. Donc là, à ce niveau-là, c'est un petit peu plus compliqué. En gros, c'est pourquoi... Les joueurs, est-ce que des joueurs seraient-ils différents que le citoyen moyen, puisque eux, ceux qui ont des contacts, même s'ils sont dans des petits groupes ou des choses comme ça, alors qu'on n'a pas le droit d'être à plus de 2 personnes en Allemagne, de se réunir à plus de 2 personnes en Allemagne. C'est des choses comme ça, si tu veux, qui sont. Mais c'est pas. il n'y a pas énormément de débats à l'intérieur du foot professionnel allemand, excepté ceux qui disent bon, faisons une croix sur la saison, reprenons l'année prochaine, ou ceux qui disent non, il faut reprendre tout de suite. Évidemment, tout le monde est d'accord sur le fait de reprendre. Enfin, l'énorme majorité des personnes, y compris les suiveurs, je veux dire les supporters du monde du football allemand et de la Bundesliga, sont en grande majorité favorables à la reprise. Aujourd'hui, c'est théoriquement le 30 avril, qui a la date qui a été fixée par la Ligue, mais des informations qui ont été sorties par Sportbild notamment, fait que vers le 9 mai, ou on va dire la mi-mai, devrait pouvoir recommencer la Bundesliga. En tout cas, c'est le plan qui est prévu par la Ligue de football.
Ouais, donc là-dessus, les Allemands sont quand même, prennent les devants beaucoup plus que les autres clubs, les autres championnats européens.
Je sais pas si c'est une question de prendre les devants, parce qu'encore une fois, moi, je peux pas.
En France, il n'y a pas de date de reprise annoncée, en Espagne non plus, en Italie non plus, en Angleterre non plus, il n'y a que chez toi, tu vois, donc c'est pour ça.
Ce qui se passe aujourd'hui, et tu parlais de critique, ça a été un petit peu critiqué, c'est que la Ligue de football allemande, à la DFL, donc Christian Seifert, que j'aime beaucoup, a pris quand même des mesures le plus tard possible pour arrêter, et à chaque fois, a repoussé le début théorique du nouveau de la continuation du championnat tous les 15 jours. Et on est encore dans cette situation là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est passé, oui on va recommencer en avril, non c'est pas possible, on a repoussé au 15 avril, non c'est pas possible, on va repousser au 30 avril. Et donc ça fait un petit peu rigoler différentes personnes qui disent non mais attends, on sait très bien que ça va être compliqué, que ça se trouve on pourra pas jouer du tout à fait toute l'année 2020 par exemple, hein, il y a quand même certaines personnes qui sont exprimées à ce niveau-là. Donc on est dans cette situation là et lui il dit on a discuté entre nous, si c'est possible pourquoi ne pas le faire. Encore une fois, c'est ce que Sportbild.
Oui, et la tendance, Polo, c'est huis clos. Comment ça se...
Ah bah oui, ça sera huis clos. Apparemment, c'est limité à un peu plus de 300 personnes au maximum qui puissent s'occuper, y compris les joueurs, tout le staff, etc. Donc, pour s'occuper du terrain ou du stade, etc. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que les arbitres ne vont arbitrer que dans leur zone où ils habitent. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir des arbitres régionaux. Voilà, c'est ça.
Attends, des arbitres régionaux. Mais alors ça va faire des polémiques de dingue, ça.
Mais oui, bah évidemment.
Ça,
la situation est
comme. Pourquoi ça va faire des polémiques, Gilbert?
Daniel, tu sais très bien.
Mais non, parce qu'ils vont être bons, ils vont bien arbitrer.
Moi, ça m'énerve quand on remet en doute comme ça, là.
Oui. Non, attends, je ne souhaite pas que des polémiques, mais tu sais très bien comment ça se passe dans ces cas-là. Il suffit qu'un arbitre, il y a un truc litigieux qui te fait gagner un match, et puis ça va partir en vrille.
Je comprends pas Polo, pourquoi les arbitres seraient régionaux alors que tu fais venir des équipes entières d'autres régions quand même.
Qui habite dans son village ou sa ville et qui s'occupe tous les 15 jours du match du coin, plutôt que de prendre le risque que cette personne, qu'elle soit porteuse ou pas du virus, qu'elle aille se balader dans une autre région à 500 km, même si on les teste, on sait jamais ce qui peut se passer. Moi, je trouve
les 20 autres joueurs, par contre, qui viennent jouer.
Ouais, mais tu limites au maximum les risques.
Avançons. Polo, il y en a quand même un qui a réussi à se blesser alors qu'il n'y a pas de contact, c'est Tolisso. Ça, c'est quand même fort. Comment il a fait?
La rechute stupide.
C'est bien classique, mais il y en a plusieurs comme ça. Mais d'ailleurs, vous parliez de championnat fossé, évidemment, qui sera tronqué parce que l'une des informations qu'on oublie, c'est que beaucoup d'équipes sont en train de récupérer aussi des joueurs qui étaient blessés et qui n'auraient quasiment pas pu jouer le championnat. Qu'ils étaient blessés avant et le fait qu'ils aient été, et donc ils récupèrent des joueurs importants. Mais le cas Tolisso, le problème c'est qu'il a une saison vraiment catastrophique à ce niveau-là. Il a rechuté, ça fait partie des mauvaises nouvelles. Mais à la rigueur, si tu veux, moi je suis tellement lorsque ces informations tombent, je suis tellement loin de ce genre de petites blessures si tu veux, moi ça me...
Alors, donc c'était comique d'apprendre qu'ils se blessent alors qu'ils font les informations en contact.
Il y en a d'autres. Mais oui, mais ils ont repris, mais il y en a plusieurs. Déjà parce que quand ils ont été confinés, ils n'ont pas forcément fait tous les exercices qu'on leur a demandé. Il y en a peut-être qui se sont amusés un peu plus que d'habitude. Il y en a qui n'ont pas respecté.
Il n'y avait pas vraiment matière à s'amuser, logiquement, hein, Polo.
Ils ne pouvaient pas trop sortir. Ils sont tous en train de s'amuser, en train de faire leur truc. Je rappelle que c'est pas
un peu moins interdit. Ne serait-ce que le rythme de vie, messieurs, qui est différent. Quand tu es dans une saison classique, tu t'entraînes le matin, tu bosses, tu récupères derrière, tu te couches à une heure raisonnable. Là, en confinement.
Mais vous, pendant le confinement, grossissez ou vous maigrissez là?
Qui moi là?
Ouais.
Nous, les joueurs, tu parles?
Non, toi.
Non, nous, en général.
Ah non, moi je grossis pas parce que je mange mieux que quand je me balade toute la semaine à droite à gauche pour bosser.
Moi, je maigris.
Je grossis pas, je sais pas si j'ai maigri.
Moi, j'arrive pas trop à savoir.
Pourquoi tu te pèses
pas? Non, mais c'est surtout le rythme
de. je fais beaucoup
tu veux pas
je fais
savoir,
beaucoup de vélo, ouais. Je fais beaucoup de vélo, mais je sais pas si le vélo ça aide. J'essaye de faire gaffe à ce que je bouffe, mais je sais pas, le fait de pas être actif, de pas avoir d'activité en dehors du sport à la maison comme
Polo,
ça.
Polo, les bières de soif pendant le confinement, tu peux pas.
Mais je bois pas d'alcool sauf que lorsque je rencontre Lionel Charbonnier.
Ouais, j'allais dire, mais qu'est-ce que tu racontes?
Bon, bref.
Non, mais c'est vrai en plus.
Tu me coûtes un bras en bière.
C'est faux.
Dis-moi, j'aimerais, oui, puisque t'es là, je voulais aussi qu'on parle de Schalke. Parce que tu nous as expliqué rapidement, là, il y a quelques jours, que Schalke était en grosse difficulté. On a repris l'information il y a quelques jours, comme quoi Schalke a dit à ses abonnés, ce serait sympa de ne pas nous demander les remboursements parce que ça le mettrait mal. Est-ce qu'aujourd'hui, on est un peu alarmiste autour de ces clubs-là, ou est-ce qu'il y a vraiment risque de faillite?
Encore une fois, la Ligue. Alors non, c'est pas la faillite, c'est de l'insolvabilité, c'est une notion comptable qui est un petit peu différente. Il y a une semaine et demie, la Ligue a sorti l'information comme quoi 13 des 36 clubs professionnels de première et deuxième division risquaient à court terme un risque de liquidité. D'accord? Et sur ces 13 clubs, il y en avait 4 de Bundesliga. Évidemment, les noms n'ont pas fuité, sauf que on commence à les connaître. En gros, c'est Paderborn, le Werder, l'Union Berlin, je pense, même si c'est pas confirmé, et Schalke 04. Schalke 04 est dans une situation très particulière. C'est un club qui réalise chaque année entre 250 et 300 millions de chiffre d'affaires. C'est un club qui est forcé de vendre ses joueurs. On en a déjà parlé, hein, Draxler, Kerrer, Sané, etc., qui a plus de 200 millions d'endettement et qui a aussi des projets de développement au niveau, par exemple, de son de nouveau. Alors il y a un projet qu'ils appellent le Bergerfeld Project, qui est en fait au niveau du centre de formation des nouveaux terrains, et ça va coûter plus de 95 millions d'euros. Donc c'est un projet relativement important, et donc ils ont des problèmes de liquidité. Ça ne surprend pas vraiment grand chose, c'est-à-dire que d'ici la fin mai, en gros, Schalke ne peut plus payer ses fournisseurs, les salaires ou des choses comme ça. Là, ce qui est important, c'est que l'insolvabilité à court terme ne veut pas dire qu'il va y avoir faillite des joueurs, parce qu'ils ont théoriquement des actifs, hein, c'est les joueurs, etc. Sauf qu'on ne sait pas si on peut les vendre. Évidemment, Schalke peut continuer à s'endetter à condition que la banque l'accepte, mais surtout en urgence, et c'était la grande nouvelle de cette semaine, le board de Schalke est en train de penser à faire ce qu'on fait beaucoup de clubs allemands, c'est-à-dire, vous savez, qu'il y a cette fameuse règle 50+1 qui autorise l'association à créer, en fait, à faire une scission de la division football pour créer une société commerciale, pour ouvrir le capital de cette société commerciale à des investisseurs étrangers. Ils sont en train, en ce moment, d'en parler de plus en plus d'une façon urgente. Et si tu fais ça alors que Schalke faisait toute sa communication depuis des années comme être quasiment le seul club allemand qui restait encore dans le côté le plus traditionnaliste du côté associatif, c'est donc qu'on a besoin absolument de liquidité. Donc ça, c'est un vrai problème. Le problème, c'est encore une fois, l'insolvabilité ne veut pas dire une faillite. Donc il ne faut pas non plus aller plus loin. Ce qui est sûr, c'est que quand on a entendu que 4 clubs sur les 36, que 4 clubs de Bundesliga, donc sur les 18, étaient en difficulté, évidemment tout le monde pensait à Schalke. Mais c'est aussi de leur faute. Ils ont, par exemple, une masse salariale de 50 millions supérieure à celle de Mönchengladbach, qui est un club qui a nettement moins de moyens que Schalke. Donc c'est aussi la faute de la gestion du club de Gelsenkirchen.
Très bien. Oui, il n'y a pas la possibilité. En France, il y a des clubs qui ont bénéficié de prêts particuliers avec des conditions de remboursement avantageuses. Ça peut être le cas aussi en Allemagne. Hein.
Bon. C'est ce qu'ils vont faire. Le problème, c'est que c'est, encore une fois, c'est de l'argent qui arrive, qui sort directement. Et Schalke, c'est pas un petit club. Donc c'est en gros la troisième force du football allemand derrière le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.
Oui, Pierre.
Moi, je suis surpris de. Alors, je savais que les clubs allemands, fonctionnaient avec la règle dite du 50+1, etc., le côté associatif, etc., etc. Je suis surpris d'apprendre que Schalke a 200 millions d'endettement. C'est courant dans le foot allemand ou Schalke est particulièrement endetté?
Ben justement, le club de Schalke 04 est souvent vu comme la légende noire du football allemand, parce qu'il est toujours dans les galères, et il est toujours dans les mauvaises affaires du foot allemand. Donc il y a toujours Schalke. En fait, alors il fut un moment, par exemple, alors c'est plus le cas maintenant, mais il y a quelques années, si tu veux, sur l'ensemble de l'endettement de la Bundesliga, Schalke représentait à lui tout seul 40% de l'ensemble des clubs. Donc c'est montre que c'est un truc à part. Par contre, cet endettement, il s'explique d'une façon assez simple. C'est un club qui, à la différence du Borussia Dortmund, a décidé de ne pas ouvrir son capital ou de créer une société commerciale pour aller chercher d'autres moyens de financement, et donc ils ont dit non, nous on va tout rembourser nous-mêmes au fur et à mesure, et c'était ce qu'ils étaient en train de faire, parce qu'ils ont remboursé l'année dernière ils étaient à 220 millions, cette année ils sont à 200 millions, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Le problème, c'est que tu prévois pas une pandémie comme ça. Et donc là, tu te rends compte que, et c'est un peu ce qu'on a reproché à Schalke, et notamment du côté du club d'Augsbourg, il y a le patron de d'Augsbourg, Hoffmann, qui dit, si un club comme Schalke, en deux mois, n'a plus de trésorerie, c'est qu'il y a juste des problèmes de gestion. Donc les ouais. C'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre parce qu'on
cet endettement rentre dans le fair play financier.
Mais oui, il y a pas de souci avec ça. Mais Schalke, par exemple, il y a deux ans, avait gagné 40 millions d'euros. L'année dernière, ils n'étaient plus en Coupe d'Europe. Ils sont à 26 millions de pertes. C'est très très spécial quand vous étudiez le compte de résultat de Schalke. Oui, pardon.
Non, vas-y, je t'en prie, pardon, je te pose une question après.
Chaque année, le compte de résultat de Schalke, tu vois qu'ils sont, dans une période d'assainissement financier, comme on appelle, mais ça dure plus d'une décennie. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment compliqué. Et puis l'endettement, c'est pas un problème lorsque tu as 300 millions de chiffres d'affaires. Le problème, c'est qu'il faut juste faire face à ces dettes et le rembourser au bon moment.
Une dernière question,
dis-moi, Polo, quand en France, on parle des clubs qui ont des moyens et qui réussissent pas sportivement. On est assez dur. Quelle est la réaction des Allemands quand un club comme Schalke, qui tu le dis souvent et c'est la vérité de toute façon, est un club très important en Allemagne avec une histoire, avec un centre de formation qui a donné beaucoup de joueurs, qui fait un gros chiffre d'affaires, mais qui sportivement finit toujours par être décevant ces dernières années. C'est quoi le regard des Allemands, de la presse sportive allemande là-dessus? Parce que chez nous, tu nous entends bien, nous, quand on dit ouais, il est pas en phase avec les moyens financiers, ça m'arrive de le dire même de Lyon, qui devrait être plus proche du PSG alors qu'ils ont des très bons résultats financiers, Lyon. Et c'est quoi le regard en Allemagne là-dessus?
Bah, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas en France, c'est qu'en fait, tu as ce qu'on appelle en Allemagne des clubs à scandale, un scandale club tout simplement. C'est des clubs, si tu veux, ça fait depuis qu'ils existent ou que tu les étudies, ils sont toujours dans les magouilles. C'est le Hertha Berlin, c'est Hambourg, c'est Cologne, c'est Schalke 04. Rappelons quand même cette année, Cologne est remontée, mais il y a deux ans, deux des quatre plus grosses villes d'Allemagne, qui avaient plus d'un million d'habitants, étaient en seconde division. Donc ça coince un petit peu. Ensuite, Schalke a son modèle de développement, a décidé évidemment d'être sur le centre de formation. Il faudrait voir un peu le nombre de joueurs qui sont sortis sur la 10 dernières années. Hein. On parle de Neuer, Özil, Draxler, Evedes, Sané, etc. Enfin, il y a quand même quatre champions du monde de 2014 qui sortait du centre de formation de Schalke. Le problème, si tu veux, c'est que Schalke, évidemment, est très critiqué, mais ils sont très conscients, les Allemands, de cet endettement. C'est-à-dire qu'ils savent très bien, mais on a eu le même cas au Werder de Brême. Le Werder de Brême, paradoxalement, était en train de se sortir d'une décennie quasiment noire, alors que c'était le deuxième club le plus performant sportivement de l'histoire de la Bundesliga. Et pendant 10 ans, ils ont, et donc c'était la période Schaff-Alof, hein, qui était manager à l'époque. Et donc, on s'est rendu compte qu'ils étaient au-dessus de leur paradigme économique, et donc, il y a un moment, faut que tu payes la note. Ils sont dans cette période-là en ce moment, sauf qu'ils bénéficient.
Mais comment ils sont mis dans cette période
compliqué. Mais c'est parce qu'ils ont décidé à l'époque, dans les années. Non, parce que ce qu'on oublie dans le football allemand, c'est que beaucoup de ces clubs comme Cologne, comme Mönchengladbach, comme Schalke, comme l'Eintracht Francfort, comme l'État Berlin, sont allés faire des séjours plus ou moins longs en seconde division, voire en troisième division. Je pense à Hanovre. Et donc le fait de remonter. Et de remonter, il a fallu, si tu veux, assainir tout ça pour qu'on commence à se créer des capitaux propres, tout simplement. Ce qui n'est pas facile, parce que la seule façon que tu as de créer des capitaux propres lorsque tu dépends d'une association, c'est que ton entreprise soit rentable. C'est que ton club soit rentable. Et chaque année, il y a un million, pour simplifier, tu les mets de côté. Mais avec un million d'euros chaque année de gagner, tu vas pas rembourser 200 millions de dettes comme ça, quoi. Ouais. Ça, c'est un peu le vrai problème des clubs allemands aujourd'hui, en tout cas qui restent dans la vision traditionnaliste. Pardon.
On va passer des bureaux au terrain dans quelques instants avec les chapeaux.
Je serais bien manager d'un club, quand même.
Chapeau les
On a compris, Polo, hein, que tu aimerais bien prendre la place de Micheline à la compta.
Oui, mais il faudra que tu passes chez le coiffeur avant, quand même.
Ouais.
Après le confinement. Ouais. Dans quelques instants, on est de retour. Et puis la nouvelle chronique cuisine de l'After également à suivre juste après le top programme à 23h. Bougez pas, on est de retour tout de suite, Aïe.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.